Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
La plume de Suisse romande, Nicolas Feuze, pour vous présenter Restez chez vous, un lien étroit, c'est le cas de le dire, entre confinement et thriller.
Radio Cité Genève.
Son état s'aggrava encore entre Serrières-Ruault et le port de Serrières. Il commença à tousser sèchement, puis de façon répétée. Il hésita à interrompre sa course, à appeler à l'aide. Il n'était plus très loin du terminus. Il ne pouvait pas risquer une paralysie du réseau pour une simple grippe. Achard redémarra, poussa à pleine vitesse pour gagner du temps, remercia le ciel que personne ne demande l'arrêt à Champ-Bougain. Sa cage thoracique se comprimait, il avait de la peine à respirer. Que lui arrivait-il? Quelle saloperie avait-il chopé? Tenir, il devait tenir. Courage, mon Ced, tu vas y arriver. Ce fut sa dernière pensée. À hauteur du bain des dames, un voile noir tomba devant ses yeux, l'obscurité l'envahit et il perdit connaissance. Citation en page 15 de l'ouvrage de Nicolas Feuze, 2020, édition Zlatkin & Company. Restez chez vous. Un ouvrage lié au premier confinement de notre pandémie Covid-19. Et oui, un lien très intime avec le virus, puisque là, dans la citation que j'ai lue, nous avons en scène inaugurale un chauffeur de tram à qui arrivera un accident mémorable sur la place de Purie à Neuchâtel et qui va générer l'entrée d'une enquête de ce qui arrive d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'une enquête policière. Alors, Nicolas Feuze, on a le plaisir de vous accueillir sur nos ondes au Radio Littéractif. Et ma toute première question est, évidemment, d'où vous est venue l'idée d'écrire « Restez chez vous » lors de ce premier confinement? Comment vous avez procédé?
Bonjour Sita, merci de m'avoir invité. Bonne année aussi à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Alors effectivement, l'idée en fait est venue d'écrire un polar sur fond d'épidémie, mais qui devait rester un polar, qui ne devait pas être une description de l'épidémie. Et finalement, c'était une réflexion de me dire, beaucoup d'auteurs allaient s'y mettre, que ce soit dans le polar, que ce soit dans d'autres domaines, et je me suis dit, je vais essayer d'être, entre guillemets, le premier. Donc pour être le premier, il fallait le publier en ligne et pas seulement attendre une édition traditionnelle.
Donc il y avait une sorte de journal quotidien en ligne dont l'ouvrage est le résultat en somme.
Oui, alors tous les jours du mois de mars et avril, autant au moment de la rédaction du scénario que de l'écriture du livre, jour après jour, je me tenais aussi informé en regardant les nouvelles, les journaux télévisés sur Suisse romande, aussi sur France. Et j'essayais d'intégrer jour après jour finalement l'évolution de la situation sanitaire, mais avec un virus beaucoup plus virulent, beaucoup plus mortel que le Covid.
Alors, ce qui est très intéressant, si nos auditeurs se lancent dans cette lecture actuellement, c'est qu'effectivement, ça fait office maintenant de travail de mémoire. On est très surpris en tant que lecteur de revisiter cette première vague dans laquelle des éléments locaux, suisses notamment, ont été quelque peu mis de côté, oubliés avec le temps. Ça fait un peu piqûre de rappel, c'est le cas de le dire. Et vous avez dans votre intrigue savamment mêlé, on va dire, deux enquêtes, voire trois, mais en tout cas deux. Concrètement, la troisième est d'un autre niveau. On a celle d'une inspectrice, une certaine Laure, qui, avec acharnement, essaye de retrouver des bébés disparus en lien avec son histoire personnelle. Et elle est persuadée qu'il y a une forme de trafic autour de ces bébés disparus, qui va rejoindre une autre enquête d'un journaliste qu'elle déteste, un journaliste qui s'intéresse, lui, plutôt à la pandémie et qui va enquêter de son côté. Et les deux enquêtes, évidemment, au bout d'un moment, vont se rejoindre. Mais alors, ce tableau du journaliste complètement acharné, qui n'a absolument aucune valeur morale, qui est prêt à tout pour avoir son scoop. D'où vous est venue cette idée?
Alors, je n'attaque aucun journaliste en particulier, mais c'est vrai que dans le cadre de mon travail de procureur, j'ai parfois eu droit à des contacts avec des journalistes d'investigation, je dirais assez peu scrupuleux. C'était souvent des journalistes de presse qu'on ne citera pas ici, mais qui sont bien connus pour être un petit peu de la presse people, ou de la presse à scandale, j'aurais tendance à dire plutôt que people. Et c'est vrai que j'ai repris certains traits de... pas d'un journaliste, mais de plusieurs journalistes que j'avais côtoyés. Et puis j'ai un petit peu forcé le trait, il faut dire aussi.
Et ça donne un certain Arnaud Fournier, que vous rencontrerez dans l'ouvrage, qui effectivement a des pratiques un peu imbuvables, mais qui portent leurs fruits, notamment, parce qu'il va jusqu'au bout de l'enquête. Alors, ce qui est aussi très intéressant, du côté journalistique d'Arnaud Fournier, qui s'intéresse à ces personnes qui attrapent ces symptômes incroyables et très, très virulents et qui meurent extrêmement rapidement, c'est que déjà, il se rend compte que c'est surtout des hommes qui meurent. Alors là aussi, vous donnez un trait particulier au virus, qui n'est pas le nôtre, qui s'attaque plutôt à la gente masculine.
Alors c'est voulu pour des raisons scénaristiques que je ne peux pas expliquer parce que sinon je risquerais de spoiler l'histoire. Mais effectivement, c'est un virus qui s'attaque essentiellement, je crois avoir dit, à 90%, 95% aux hommes dans le livre, si je me souviens bien. Il y avait quand même un tout petit parallèle avec le Covid, parce que je me souviens de publications du mois de mars ou avril, où on disait que la plupart des gens qui mouraient du... Enfin, pas la plupart, mais une majorité des gens qui mouraient de Covid étaient des hommes. Je crois me souvenir d'un pourcentage de 60 à 65%. Alors, est-ce que c'est parce que les hommes sont plus fragiles que les femmes? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça.
Alors voilà un virus bien particulier et qui emmène ce journaliste petit à petit dans une zone sinistrée, fermée. Alors on voit tout de suite, on a des références de films catastrophes, notamment ce film qui avait été fait sur le virus de l'Ebola, où il y a des sortes d'isolement de régions géographiques. Et là, en l'occurrence, pour le coup, on se retrouve dans un isolement dans le Jura, aux Verrières, lieu symbolique du passage des soldats Bourbaki. Pour la petite histoire qui va rejoindre la vôtre, évidemment. Et alors, pourquoi avoir scellé près des Verrières ce genre de virus?
Alors, je voulais avoir un épicentre, finalement de l'épidémie, de ce virus qu'on va appeler Verna. Et je voulais l'avoir dans un petit village, pas dans une grande ville. C'était aussi pour moi beaucoup plus facile ensuite de décrire un confinement, mais un confinement carrément militaire, on va dire, puisque finalement l'armée va entourer ce village des Verrières, comme on l'a vu, vous l'avez dit, dans certaines fictions hollywoodiennes, je pense notamment au film Alerte avec Dustin Hoffman. Et je me suis un petit peu aussi inspiré de ce genre de situation.
Alors, il y a aussi les médecins légistes, comme dans tout bon polar, n'est-ce pas, qui cette fois alors en prennent pour leur grade, puisque le virus est tellement virulent qu'être légiste, ça devient un défi particulier. Je lis notamment en page 38 la première autopsie, notamment de ce chauffeur de tram qui perd pied et qui génère l'accident par sa mort subite en conduisant. Par réflexe, il lâcha ses outils, donc notre médecin d'autopsie. Recula précipitamment, arracha ses gants, lava abondamment ses mains et ses avant-bras avec du savon. Puis il se désinfecta au moyen d'un gel hydroalcoolique. Il passa ensuite un masque chirurgical sur son visage, prit son téléphone et donna l'ordre de confiner immédiatement la morgue. On voit dans ces citations combien ces gestes qui sont devenus quotidiens pour nous étaient le début de nouvelles habitudes pour notre population.
Exactement. Alors au début c'était tout nouveau. Je crois me souvenir qu'on n'avait même pas l'obligation du port du masque en mars-avril, pardon. Et on en parlait. On avait plutôt ces visions de touristes asiatiques qui venaient en Europe, qui portaient le masque tout le temps comme chez eux, et ça nous faisait plutôt sourire. Je crois qu'aujourd'hui on a rejoint cette triste réalité. Maintenant, au niveau des autopsies et des médecins légistes, c'est vrai que le Covid en mars-avril a aussi eu tout au début des impacts sur le CURM, donc le Centre universitaire roman de médecine légale, qui craignait un afflux massif d'autopsies liées à cette maladie et qui avait déjà pris des mesures.
Autre fait historique qui traverse votre ouvrage et qui fait référence pour nous, lecteurs suisses, en page 98, « Ce ne sont pas des vacances », précisait Alain Berset. « La charge de travail est considérablement allégée, mais les enfants sont invités à rester à la maison et les enseignants à organiser des cours à distance. » Le ministre ajouta que la mesure s'étendait aux crèches et que les lycées et les universités garderaient porte close. De voir ce type de raisonnement avec les personnages vivants cités dans votre texte, ça fait office d'histoire avec un grand H, et ça donne un moment même d'émotion, je dirais, au lecteur à ce moment-là.
Alors c'est vrai, je n'ai pas relu Rester chez vous quelques mois plus tard. Donc c'est vrai que quand je l'écrivais, vous me rappelez ces passages-là. C'est vraiment des passages dont je me suis inspiré au moment où les décisions ont été prises par Berne et par Alain Berset. Et c'est vrai que quelque part, je voulais graver ces souvenirs dans un livre et je trouvais que c'était le bon moment, le bon endroit de le faire dans Rester chez vous.
Et peut-être encore quelques mots sur Laure Granello, donc l'inspectrice qui fait cette deuxième enquête qui va rejoindre l'enquête du journaliste, celle sur les bébés disparus. Vous scellez géographiquement un certain trafic de stupéfiants à Bienne. Alors pourquoi Bienne plutôt qu'une autre ville?
Alors, ça c'est peut-être ma petite pique de longue date, on va dire, aux Biennois. C'est vrai que Bienne est malheureusement une plaque tournante du trafic de drogue. L'a été de longues années. Il y a des mesures qui ont été prises, mais ça prend du temps de faire changer de cap un navire aussi lourd quand on a pas qu'une ville comme Bienne, quand on n'a pas pris des mesures pendant des années. Et malheureusement, autant pour la cocaïne que pour l'héroïne, pour la marijuana, les autres drogues aussi de synthèse comme la méthamphétamine, énormément de romans allaient se ravitailler à Bienne. Alors il y avait évidemment la proximité neuchâteloise, fribourgeoise, on connaissait beaucoup de toxicomanes qui étaient placés à Bienne, mais on voyait également des Vaudois, des Genevois qui allaient jusqu'à Bienne se ravitailler. Donc c'est vrai qu'en tant que procureur spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants, j'ai toujours eu une petite hargne personnelle vis-à-vis de cette ville dont j'avais l'impression qu'elle prenait pas toujours au moment où il fallait les mesures.
En tout cas, ça a le mérite d'être totalement incarné, votre récit, dans notre géographie de Suisse romande. Et pour le coup, ça permet au lecteur de pouvoir revisiter la ville et puis les cités que vous relatez de façon totalement différente, de façon, on va dire, chronique, quelque part, et dans la réalité d'un quotidien dont on n'aime pas toujours montrer le tableau. C'est le rôle du polar de le faire, de montrer la face obscure de l'humanité. Peut-être quelques mots avant qu'on se sépare sur cet autre ouvrage que vous venez de sortir et qui fait pendant à celui de Rester chez vous, Nicolas Feuze, c'est ce fameux calendrier d'après.
Alors oui, le calendrier de l'après, c'est en quelque sorte la suite de Rester chez vous. Il n'y a pas d'obligation absolue d'avoir lu Rester chez vous pour lire le calendrier de l'après, mais le calendrier de l'après reprend certains personnages de Rester chez vous 18 ans plus tard. Donc on change d'époque et on change aussi de style parce que, comme vous l'avez dit, Rester chez vous est finalement un polar assez traditionnel, mais sur fond d'épidémie, alors que le calendrier de l'après n'est pratiquement plus un polar. C'est un thriller dystopique, donc il y a évidemment une forme d'enquête, ou on va dire de côté noir, de côté sombre, mais c'est plus une dystopie. Donc un roman d'anticipation, 18 ans plus tard, on se situerait, même si je le cite pas dans le livre, en 2038, 18 ans après l'épidémie Verna, de Rester chez vous.
On rêve de ce 18 ans après, bien entendu. Avant qu'on se sépare, j'ai envie de lire quand même la dédicace de votre ouvrage, Nicolas Feuze, Rester chez vous, édition Zlatkin & Company 2020, parce que je pense qu'il est indispensable de le lire. Ce livre est dédié au personnel soignant, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont œuvré chaque jour pour que nous puissions continuer de vivre le plus normalement possible durant le confinement. Élément que nous pourrons nous répéter régulièrement, bien entendu. Merci beaucoup, Nicolas Feuze.
Merci Cita, merci Radio Cité Genève et à une prochaine.
À tout bientôt, au revoir.
À tout bientôt. Alors oui, le calendrier de l'après, c'est en quelque sorte la suite de Rester chez vous. Il n'y a pas d'obligation absolue d'avoir lu Rester chez vous pour lire le calendrier de l'après, mais le calendrier de l'après reprend certains personnages de Rester chez vous 18 ans plus tard. Donc on change d'époque et on change aussi de style parce que, comme vous l'avez dit, Rester chez vous est finalement un polar assez traditionnel, mais sur fond d'épidémie, alors que le calendrier de l'après n'est pratiquement plus un polar. C'est un thriller dystopique, donc il y a évidemment une forme d'enquête, ou on va dire de côté noir, de côté sombre, mais c'est plus une dystopie. Donc un roman d'anticipation, 18 ans plus tard, on se situerait, même si je le cite pas dans le livre, en 2038, 18 ans après l'épidémie Verna, de Rester chez vous.
On rêve de ce 18 ans après, bien entendu. Avant qu'on se sépare, j'ai envie de lire quand même la dédicace de votre ouvrage, Nicolas Feuze, Restez chez vous, édition Zlatkin & Company 2020, parce que je pense qu'il est indispensable de le lire. Ce livre est dédié au personnel soignant, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont œuvré chaque jour pour que nous puissions continuer de vivre le plus normalement possible durant le confinement. Élément que nous pourrons nous répéter régulièrement, bien entendu. Merci beaucoup, Nicolas Feuze.
Merci Cita, merci Radio Cité Genève et à une prochaine.
À tout bientôt, au revoir.
À tout bientôt.
Le Radio Littéractif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres. Parfois même, le texte l'engloutit.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles auspices et de nouveaux horizons littéraires, bien entendu.